La Basse Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les les samedis à 11h et dimanche à 13h avec petites et grandes histoires de la Basse Marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche que je vais consacrer à tuilier, briquetier et potier jadis en Basse Marche. Pour les textes, nous avons fait appel aux auteurs suivants: Paul Lavergne, Printemps et Le Collier de Terre, Maurice Robert, Les Tuileries Limousines au XIXe siècle, et Les Poteries Populaires et les Potiers du Limousin et de la Marche, Le Bulletin du Dolmen Club de Bellac de 1909, et Georges Drouot, Monographie du canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles.
La Basse Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec petites et grandes histoires de la Basse Marche.
La statistique de 1861 nous indique qu'au milieu du 19e siècle, le Limousin comptait 200 tuileries recensées et le département de la Haute-Vienne environ 75. Dans le nord du département de la Haute-Vienne, au 19e siècle, on recensait des tuileries dans les communes suivantes. 2 tuileries à la Bazeuge, 1 à Saint-Julien-les-Combes, 2 à Peyrat-Bellac, 3 à Bellac, 1 à Brioffa, 2 à Saint-Barban, 1 à Nouic, 1 à Dompierre-les-Églises, 3 à Magnac-Laval, 1 à Saint-Ouen-sur-Gartempe, 1 à La Croix-sur-Gartempe, 1 à Darnac, 1 à Rancon et 1 à Saint-Bonnet-de-Bellac, mais également 1 au Grand-Chézeau, 1 à Saint-Sulpice-les-Feuilles, 1 à Gajoubert, 1 à Chamboret et bien sûr la tuilerie de chez Quetely à Mézières-sur-Issoire dont nous parle Paul Lavergne. La toponymie nous indique aussi des maisons isolées ou des lieux dits la Tuilerie ou la Tuilière à Bussière-Beaufy, à Dinsac, à Saint-Léger-Magnazet, à Saint-Martial-sur-Isope, à Saint-Sornin-la-Marche et à Thiat. Bien sûr, on s'en doute, les Tuileries vont se regrouper sur les filons d'argile les plus importants ou les plus rentables pour cet artisanat. Les Tuileries vont se multiplier au XIXe siècle et cela est dû essentiellement à l'accroissement de la demande en tuiles provoquée par la disparition progressive du chaume et par une relance de la construction. L'installation des centres potiers dans notre Basse Marche, elle, est plus ancienne. Thiat est un village de potiers depuis le XVIIIe siècle. Les potiers blancs de Miomande à Oradour-Saint-Genest existaient, semble-t-il, dès le XVIIe siècle. On trouvait aussi des potiers à Azellerie, à Saint-Martin-le-Mau, à Gajoubert, à Magnac-Laval, à Breuilhoffa, à Bellac, où des potiers de terre étaient installés à Chapterie et aux Tuilières.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Dans son roman Printemps, Paul Lavergne raconte la vie à la Tuilerie, sans doute la Tuilerie de chez Quetely à Mézières-sur-Issoire. Elle nous parle d'abord de l'extraction de la terre à tuiles. Un peu impressionnés, les quatre garçons aux lourdes mains commençaient leur ouvrage. Il s'agissait d'extraire la terre à tuiles ou à briques pour tout le temps de la campagne. Petit à petit, des tas rouges s'élevaient, cependant qu'au fond des fosses, les ouvriers donnaient, en ahanant, les coups de pique. La pointe de l'outil entrait dans l'argile, en enlevait de larges tranches collantes qui ne voulaient plus se détacher. Travail de colosse. Les mottes pesaient comme du plomb. Il fallait avoir les bras solides pour tenir à cette tâche des journées entières. Dans un autre document cité par Maurice Robert, Paul Lavergne nous détaille le fonctionnement de la tuilerie de chez Quetely à Mézières-sur-Issoire. Et d'abord l'extraction. Dans un terrain de 4 hectares, dit le pâtural, sous une couche de terre végétale d'environ 50 cm, on trouvait le filon d'argile d'une épaisseur variant de 1,50 m à 2 m. Au-delà de 2 m, c'était le sable et l'eau emplissant le fond de la carrière qui devait être abandonné. Certains filons valaient mieux pour la brique, d'autres pour la tuile. La terre était arrachée avec des pics ou des pelles par 4 ou 5 hommes durant tout le mois de mars, ce qui, en principe, devait en fournir suffisamment pour la campagne. on commençait à fabriquer qu'après le 1er avril, époque où l'argile mouillée ne risquait plus guère de geler.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Ensuite, la terre était transportée dans un tombereau attelé à un cheval jusqu'à la marche où se faisait le pétrissage. La marche était une fosse carrée pavée de bois de 3 mètres sur 3 et de 50 cm de profondeur et donc, par conséquent, d'une contenance de 4 mètres cubes et demi environ. Il fallait 4 tombereaux archicombles pour la remplir. Ensuite, avait lieu le mouillage, l'eau étant puisée à l'aide de seaux, soit à la cigogne, c'est-à-dire le puits à balancier, proche de la mare, soit prise à un trou ou mare également à proximité. Il fallait environ 1000 litres par mètre cube pour imprégner convenablement l'argile. Vient ensuite le pétrissage. Reprenons là le récit de Paul Lavergne dans Printemps. Auprès de l'atelier, dans une espèce de trou carré bien pavé de solives qu'on appelait la marche, le troisième ouvrier, le marcheur, pétrissait la terre à tuiles. Il faisait tourner la jument en rond dans la glaise. Elle s'en arrachait péniblement, les pattes souillées jusqu'au ventre. Mais le marcheur sifflait des airs exubérants, très souvent de sa fantaisie, et la badine de saule cinglait la croupe de la bête, et le travail primitif se poursuivait au beau soleil. Parfois, pour donner quelques répits à l'animal, il l'arrêtait au milieu de la marche, s'accotait à son flanc, et le groupe qu'il formait avait quelque chose de puissant parmi les mouches, la lumière et l'odeur forte de sueur de cheval. Et Paul Lavergne d'ajouter, au bout de 2 heures et demie environ, on sortait le cheval pour le laisser souffler, car c'était un dur travail pour lui. Pendant que le cheval soufflait, le marcheur, avec une pelle en bois, ramenait vers le milieu la terre des encoignures qui avait plus ou moins échappé au pétrissage. Et le travail reprenait jusqu'à obtenir de la glaise ayant la consistance, la finesse et l'onctuosité d'une motte de beurre.
Un peu vulgaire. Pendant ce temps, l'or noir coule, monte et inonde l'onde, la plombe et se ternit la houle.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
C'était ensuite la fabrication des tuiles ou des briques sur un atelier de terre battue installé au milieu de la tuilerie. Reprenons le récit de Printemps. Sous les doigts de Matissou jaillissait une tuile qu'il tirait de l'argile avec l'adresse d'un dieu créateur. Le petit poseur venait, pieds nus, recevoir sur le bois de sa courbe l'œuvre encore fragile. Il la prenait avec précaution, la lissait de sa main étendue, puis, s'en allant vers la lumière, la posait doucement sur le sol, donnait une secousse, tirait la courbe avec adresse, et la merveille se tenait seule, déjà saisie par le soleil. Il y en avait de longues rangées de ces tuiles toutes pareilles qui se déployaient en éventail et blanchissaient à la chaleur. Dans l'autre document, Paul Lavergne nous indique que du matin au soir, du lever au coucher du soleil, pendant 10 heures et parfois davantage, le travail se poursuivait au même rythme. Un bon mouleur, secondé par un bon goujat, fabriquait 2000 tuiles dans sa journée et pendant 4000 fois, le poseur qui avait entre 15 et 18 ans faisait le trajet de l'atelier au sol et du sol à l'atelier. Notons au passage qu'en 1930, un mouleur gagnait 400 francs par mois, un marcheur 300 et un goujat, c'est-à-dire l'aide, 250. 250, c'est un peu moins de 100 euros. Mais ils étaient logés et nourris. Ensuite, il fallait assurer le séchage. Il avait lieu à l'ombre dans le courant d'air de la Tuilerie. Plus ou moins vaste, les Tuileries étaient bâties sur le même modèle, ouvertes de tous côtés, sous une toiture très basse, avec seulement un ou deux portiques d'entrée sur chaque face. L'été seulement, on moulait et posait dehors sur des emplacements bien nivelés. Cependant, lorsque l'orage menace, il y a péril. Écoutons à nouveau Paul Lavergne dans Printemps. Il faisait chaud. La tuile séchait sur les sols bien ventilés. Le foin se balançait dans la prairie blanche de Marguerite. Le père était joyeux, les ouvriers chantaient. Mais des nuages s'accumulaient le soir en rochers gris foyés de temps à autre par un éclair. Un grondement lointain faisait tressaillir l'horizon. Les hommes se pressaient de couvrir les barges crues entassées dehors, de lever la tuile des sols pour la mettre à l'abri. La moindre pluie aurait gâté l'ouvrage. Ils couraient dans leurs espadrilles de cordes, ramassaient de lourdes brassées qu'ils se passaient à la chaîne. Rosalie consultait le ciel. Les nuages avançaient en ronflant, lourds de pluie et de grêle. Les éclairs illuminaient de larges pans d'espace que l'on contemplait, les yeux dilatés. « Vous ne les aurez pas toutes, vos tuiles. Vous ne les aurez pas toutes, » prédisait-elle. « Aide-nous donc !» lui criait Matissou, sans croire qu'elle le ferait. Mais elle accourait aussitôt, le poseur lui jetait presque à la volée une charge de tuiles qui faisait ployer ses bras. Elle se raidissait, prenait la file et courait derrière les autres.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Une fois sèches, briques et tuiles étaient empilées en attendant d'être enfournées. Ensuite, il fallait garnir le four en vue de la cuisson. On commençait par installer en bas des arceaux en briques crues pour que le feu puisse pénétrer jusqu'au fond. Sur les arceaux s'empilait la brique brute ou pressée. Le four de chez Catley en contenait 7000 environ. Par-dessus, on mettait la tuile, 15000 environ. 4 ou 5 hommes mettaient une journée pour enfourner. Reprenons là le récit de Paul Lavergne dans Printemps. Certains soirs, le père entrait d'un air las et disait « Nous avons fini d'enfourner. Tout à l'heure, j'allume. » Peluce et Rosalie, sautant de joie, leurs longues tresses passant d'une épaule à l'autre, se ruaient vers la Tuilerie. Le père s'enfonçait sous les arceaux d'argile et durant des minutes, il ne se passait rien. Un vague chuchotement parvenait aux gamines qui attendaient, inquiètes, à la gueule du four. Tout à coup, des tourbillons de fumée s'échappaient par l'ouverture. Mon Dieu ! Et le père qui ne sortait pas ? Rosalie se penchait, angoissée, et n'apercevait qu'une mince flamme qui paraissait se débattre. « Père !» criait la petite Peluce. « Es-tu là ?» Le père surgissait sur ses espadrilles, et derrière lui, l'oncle riait de la peur de ses nièces. La lueur du foyer grandissait brusquement, gagnait les voûtes avec un ronflement de colère. Les bûches commençaient à craquer, à se tordre, et bien vite, à crouler, mangé par les flammes sournoises. Toute la nuit, le père veillait devant le four avec l'oncle ou Matissou pour le relayer. Des heures, il fallait alimenter le feu, lui jeter à pleine gueule de lourdes bûches de châtaignier. La deuxième nuit, quand la flamme dégagée des arceaux avait atteint la bouche même et que l'air vibrait de chaleur par ces belles nuits étoilées, veloutées, tranquilles, le père construisait une cabane de planches devant le brasier. Il y jetait des sacs, des fougères vertes, et sur ce lit agreste, les fillettes avec leur mère venaient reposer. Devant le four dévorant, le père et Matichou se mouvaient comme des ombres. Les bûches dégringolaient, quartier énorme d'arbres que les deux hommes balançaient et envoyaient d'un élan roulé dans la fournaise. Des étincelles partaient là-dedans comme des fusées. Le monstre rugissait de plaisir. Les flammes promptes rampaient sur le bois, le mordaient, lui tiraient le cœur comme des bêtes sanguinaires. Et peu à peu, le feu transformait l'argile. Il en faisait un matériau solide, avec des coins durs, des surfaces fines, que le travail patient des eaux n'attaquerait pas. Les tuiles rougissaient, les briques bleuissaient, rendaient un son clair comme de la porcelaine. Le père laissait tomber la flamme, un tremblement de chaleur faisait craquer les noires charpentes, la bouche du four était pleine de braise comme une porte de l'enfer, les fillettes s'endormaient harassées par l'aube, dans le goût acerbe des fougères, pendant que les oiseaux s'éveillaient en pépillant et que déjà, par la campagne, les petites bergères criaient derrière leurs bêtes fumantes.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Il fallait attendre 4 jours avant que la marchandise soit assez froide pour qu'on puisse la défourner. Elle était alors empilée dehors contre le mur du four. La tuile devait être d'un beau rouge, la brique lourde et légèrement violacée. On fabriquait en moyenne 8 fournées par an, jusqu'à 10 avec de bons ouvriers quand le temps était beau. Alors que produisait-on dans cette tuilerie de Mézières-sur-Issoire ? La tuile traditionnelle de 33 cm de long, différents types de briques à 2 épaisseurs, des faîtières, des carreaux à carrelés de 15 cm sur 15, des carreaux de four ou de sol de 30 cm sur 30, les tuiles plates pour les châteaux des environs de Montbas, de la Côte, du Fraisse ou de Montagrier n'étaient fabriquées que sur commande. Dans certaines tuileries, on profitait d'une fournée pour cuire quelques poteries et des drains. Notons que la production des tuileries est saisonnière, car on cesse de fabriquer dès les premières gelées. En moyenne, début novembre à fin mars, début avril, soit près de la moitié de l'année. Notons également que le plus souvent, les tuiliers travaillent sur commande et écoulent la marchandise dès sa fabrication. Aussi, l'artisanat de la tuilerie, nous dit Maurice Robert, est essentiellement rural. Et le tuilier est aussi un paysan, mais qui bénéficie dans la société rurale d'un statut social valorisé par son activité. En fait, il est plus artisan que paysan. Précisons encore que dans leur grande majorité, les tuileries occupent peu de personnes, en moyenne 2 ou 3. Mais les patrons tuiliers font souvent appel à du personnel temporaire, des paysans manouvriers du hameau, par exemple. Les tuileries et les briqueteries, nous indique Maurice Robert, étaient classées parmi les établissements dangereux et insalubres en raison des dangers d'incendie et de l'abondante fumée dégagée lors des cuissons. Tant que les fours furent chauffés au bois, on n'eut pas à examiner de trop nombreuses plaintes du voisinage, bien que la fumée n'ait pas été généralement appréciée. Mais ce ne fut plus le cas lorsque les fours furent chauffés au charbon. Et l'auteur de nous citer quelques exemples de ces conflits. À Magnac-Laval, en septembre 1843, où l'autorisation est accordée à la condition que la tuilerie soit éloignée de plus d'1 kilomètre des bois et forêts et des habitations. Et encore parce que cette nouvelle tuilerie fera concurrence à celle de la marquise de Couronnel et, en créant la concurrence, fera baisser le prix de la tuile. On observera une enquête identique à la Bazeuge lors de l'installation des Tuileries de Bonne en 1854 et Moreau en 1858. La fin des Tuileries locales. Nous allons reprendre le témoignage de Paul Lavergne concernant la Tuilerie de chez Catly à Mézières-sur-Issoire. Implantée à l'époque de la Révolution, elle y prospéra jusqu'à la dernière guerre où, faute de personnel, son activité dut cesser pendant la période de l'occupation. Modernisée en 1947, équipée de machines, le travail reprit et l'on y fabriqua, entre autres, une brique à plafond réputée. Malheureusement, une entreprise saisonnière ne pouvait lutter contre les usines à grand rendement, travaillant sans arrêt. Elle dut renoncer. Et maintenant, nous étions alors en 1972, elle est abandonnée. Là où tant de jeunes gens qui ne craignaient point leur peine ont travaillé si longtemps, dans la joie et la bonne humeur, il n'y a plus que le silence. Jour après jour, le four et les hangars se détériorent un peu plus, subissant la destinée commune aux gens et aux choses dont la vie est à son terme.
Ah mon ami potier, n'es-tu donc jamais fatigué ? Attends tourner. Plus de 1000 et 1000 tours par jour sur ton vieux tour. Et tes mains ne sont-elles pas usées jusqu'à l'os? Attends tourner, pétrir, frotter, caresser, dominer. La bonne et rude argile d'où nous sommes tous nés.
Nous allons terminer avec une activité particulière de notre zone, celle des centres potiers. Nous avons déjà longuement parlé lors de notre émission sur la bujade, sur la lessive, du centre potier de Thia qui fonctionna du 18e au 20e siècle et se spécialisa dans la fabrication des fameux bujadiers et de la poterie alimentaire grâce à la présence d'un affleurement de schiste satiné gris-vert de grains très fins. À noter qu'on trouve aussi, semble-t-il, des potiers blancs à Miomande, dans la commune voisine d'Oradour-Saint-Genès, dès le XVIIe siècle. Une fabrique de poterie est signalée à Azalerie au début du XIXe siècle, mais son activité ne durera que quelques années. Roger Drouot, dans sa monographie du canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles, nous signale des potiers de terre en 1756-1758 à Saint-Martin-le-Mont. Paul Lavergne nous parle d'un Jacques Brie, potier et paysans de 1671 à 1685 à Gajoubert. À Magnac-Laval existait, semble-t-il, au XIXe siècle, une fabrique de faïence noire. On y fabriquait aussi de grandes cuves ou jarres destinées à la lessive qui ont quelquefois 1 mètre de diamètre, une poterie noire un peu comme à Thia. Breuilhoffa possédait, selon le préfet Texier-Olivier, un des centres potiers les plus importants de la Haute-Vienne. Dans des fours de petite dimension creusés dans la terre et soutenus par des corps de maçonnerie, on produisait des poteries rouges. Mais l'abbé Leclerc, lui, ne parle pas d'une poterie, mais d'une faïencerie qui existait quelque temps avant la Révolution. Notons que certains potiers utilisaient les fournées des tuiliers briquetiers pour cuire leur poterie. C'est ainsi que Georges Deschérat, le poète plasticien de Bellac, avait coutume de cuire ses œuvres dans le four de M. Perrault, le tuilier de Perra de Bellac. À Bellac, on trouve des potiers et des faïenciers dès le XVIIe siècle, à Chapterie et aux Tuilières. Que fabrique-t-on chez ces potiers ? Des cuviers que l'on appelle des bujadiers ou des bujadis, des jarres à huile, des pots à eau, des pots à huile, des jarres à lait, des toupies qui sont des contenants en terre qui peuvent aller au feu, ou des grands pots qui servaient de saloir, des cruches, des terrines, des marmites, des écuelles, des assiettes, des plats à cuisson, des saladiers, des soupières, des moules à fromage, des bols, des pots de chambre, des bouillottes, et encore des épis de faîtage. Cependant, ceux-ci sont assez peu nombreux dans notre région. On en trouve pourtant plusieurs dans la commune d'Azalerie, à Bessine aussi, plusieurs encore à Lussac-les-Églises, à Chenomorte dans la commune de Mézières-sur-Issoire, à Saint-Sulpice-les-Feuilles et à Thia. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche que j'ai consacrée à tuiliers, briquetiers et potiers, jadis en basse marche. Pour les textes, nous l'avons fait en compagnie de Paul Lavergne, de Maurice Robert, de Georges Drouot et du bulletin du Dolmen Club de Bellac. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel aux compositeurs Tchaïkovski, à Stéphane Delic, Angelo Piccieri, au chanteur Marcel Mouloudji, au groupe Maluzerne, Les Éoles et Massimo Craveri, que nous écoutons en ce moment.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.